Donc je disais que ça me fait plaisir de me retrouver avec le groupe Foi et Partage, parce que ça me rappelle de beaux souvenirs, ça me ramène à 1970. Jean Magnier était venu faire animer une retraite à Valcartier, et c'est à la suite de cette retraite que Foi et Partage est né ici à Québec. Hier, dans l'Évangile, on lisait cette parabole de Jésus où il disait qu'il faut semer des graines en terre, puis on les laisse pousser, et ça donne des fruits. En 1970, à l'automne, Jean Vanier était venu. Il a semé la parole. Tout de suite après, il y a des gens qui se sont regroupés autour de lui, avec lui, et de là est né Foi et Partage. Je garde de ça un bon souvenir parce que j'étais là à ce moment-là, dans les toutes premières années. C'est comme ça que la bonne nouvelle se répand. Il suffit que quelqu'un, quelque part, dise l'Évangile pour que ça rassemble du monde et ça rassemble des gens qui annoncent cet Évangile-là à leur tour. C'est ce que Foi et Partage fait depuis 46 ans, ici et ailleurs et en tellement d'endroits dans le monde. La force, la richesse, la puissance de l'Évangile. On m'a demandé aussi de dire un peu ce que j'ai fait rapidement. Moi, j'ai été tout d'abord au séminaire de Saint-Georges dans la Beauce pendant 12 ans. J'ai enseigné, j'ai été directeur d'école. Après ça, je suis venu au séminaire Saint-Augustin à Cap-Rouge, je suis resté là 3 ans. Et après, au grand séminaire, où on m'a laissé travailler pendant 27 ans. Donc, c'est un peu ma vie, ça. Plus, à la fin, après tout ça, j'ai été à la direction de la Revue Pastorale Québec pendant 11 ans. À travers ça, j'ai fait bien d'autres choses, et toutes sortes d'activités qui font que ça a rempli ma vie, et c'est ce qui fait que je continue, que je me retrouve ici. J'ai 62 ans d'ordination, donc il y a longtemps que je fais le métier et je suis encore vicaire de dimanche à la cathédrale. Et je vais aller là à 5 heures pour célébrer la messe à la cathédrale. Bon, c'est ça ma vie, plutôt dans le monde de l'éducation, mais aussi beaucoup de présence en paroisse, de toutes sortes de manières, et présence dans différents milieux. Ça me fait plaisir de me retrouver avec le groupe Foi et Partage. On m'a demandé de prendre la parole sur la béatitude qui dit « Heureux les consolés ». Pas de même qu'il faut dire ça. « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Heureux les affligés, car ils seront consolés. Je trouve ça intéressant parce que dimanche, et donc cet après-midi, on célèbre la messe du quatrième dimanche du temps ordinaire et on va entendre le récit des béatitudes. Donc la réflexion de cet après-midi, elle rejoint la réflexion de toute l'Église au cours de cette fin de semaine, de toute l'Église catholique de partout, puisque partout on va proclamer les béatitudes. Et elles étaient rappelées dans la prière que nous venons de dire. Il y a un peu de temps, peut-être 3 semaines, je travaillais chez moi, mon ordinateur, et la télévision fonctionnait sans que j'y prête attention. Et voilà que tout d'un coup, j'entends le mot « religion ». Et je m'arrête, et je me retourne pour regarder qu'est-ce qu'on pouvait dire en plein milieu d'après-midi à la télévision à propos de la religion. C'est une dame qui interviewait un acteur québécois dont je n'ai pas réussi à saisir le nom. Et en parlant avec lui, ça se met à parler de religion tous les deux. Et alors elle lui pose une question. Elle lui dit, est-ce que vous êtes croyant? Le bon monsieur répond, Je ne sais pas quoi vous dire. Je suis incapable de vous répondre. Je ne sais pas si je suis croyant ou si je suis incroyant, je ne sais pas. Et alors, elle insiste un peu en disant, mais avez-vous la foi ? C'est la même question que vous me posez deux fois. J'ai la même réponse qu'à la première fois. Je ne sais pas si j'ai la foi. Peut-être que je l'ai, peut-être que je ne l'ai pas, je ne sais pas. Mais comme vous insistez, je pense que je vais vous dire que dans ma vie, il y a un livre qui occupe une place importante. Il y a un livre auquel je reviens régulièrement, souvent. Alors elle dit, quel livre ? Ben, elle dit, c'est l'Évangile. Pour moi, c'est un livre qui m'accompagne. Pour moi, c'est un livre qui est lumière dans ma vie. Et, surprenant, il se met à dire la liste des béatitudes, par cœur, comme ça, de mémoire, à la radio, il donne les 8 béatitudes. La madame est restée un peu estomaquée. Je trouve ça intéressant parce que c'est quelqu'un qui ne semble pas trop religieux, ne semble pas trop croyant, mais qui dans sa vie se réfère aux évangiles et se réfère aux béatitudes. Plus ou moins consciemment, il se réfère à la parole de Jésus. Plus ou moins consciemment, il rejoint le monde des croyants, de ceux qui se relient à Jésus, à la personne de Jésus. Il nous relie, il ne sait pas s'il est croyant ou pas, s'il a la foi ou pas, mais il se relie à nous, qui sommes ici rassemblés, sans savoir. Puis nous, en vous racontant ça, je nous relie à lui. C'est comme ça qu'il y a, ce peuple des disciples de Jésus, des disciples de toutes les catégories, des disciples qui le savent avec force, puis d'autres qui ne le savent pas trop, mais qui le sont quand même. C'est comme ça que l'Évangile rejoint beaucoup de monde, et peut-être plus de monde que nous le pensons, que nous le croyons. Donc, les béatitudes. Ce qu'on va nous faire lire ce soir et demain, c'est le récit de saint Matthieu. Un récit qui commence de cette manière. Ma Bible est là, mais au lieu d'être constamment en train de chercher des passages, je les ai écrits sur mes feuilles, donc ça me permet d'être plus à l'aise puis d'aller un peu plus rondement. Le récit de saint Matthieu commence de cette façon. Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. C'est sur quoi saint Matthieu veut insister, Jésus qui enseigne. Et qui enseigne à la foule des gens qui sont devant lui. Et parmi eux, il y a ses disciples qui se sont mis un peu plus proches, qui se sont avancés. Nous sommes comme eux cet avant-midi ici, aujourd'hui, nous nous sommes rapprochés les uns des autres et pour entendre la parole de Jésus. C'est une assemblée de disciples que nous constituons. Jésus enseignait. Dans le récit de Saint-Luc nous rapporte aussi les béatitudes. Lui, il en rapporte 4, alors que saint Matthieu en donne 8. C'est différent un peu parce que ça a été écrit, ces textes-là, peut-être 40 ans après l'événement où Jésus a parlé. Donc, on écrit à partir de ce dont on se souvient, de ce qui s'est raconté pendant quelques dizaines d'années. Alors, Saint-Luc, c'est intéressant quand même de voir la différence. Saint-Luc commence de la manière suivante. Jésus descendit de la montagne avec ses disciples et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux les pauvres, heureux vous qui avez faim, heureux vous qui pleurez, heureux êtes-vous quand les gens vous haïssent, vous insultent à cause de moi. » Saint Matthieu insistait pour dire « Jésus enseignait ». Saint Luc, je voudrais attirer votre attention là-dessus, Saint Luc, levant les yeux sur ses disciples, Jésus qui regarde ses disciples et qui leur dit les béatitudes. Le regard de Jésus, ça revient souvent dans les évangiles. C'est quelque chose d'important, le regard de Jésus. Je vous rappelle quelques passages des évangiles où il est question du regard de Jésus. Saint Matthieu, l'évangéliste, celui qui a écrit l'évangile, il était apôtre. Souvenez-vous qu'un jour, Jésus s'en allait sur la route et il voit, assis à son comptoir, quelqu'un qui est en train de collecter les impôts. Il le regarde. Matthieu le regarde aussi, leurs regards se rencontrent. Jésus dit, viens, suis-moi. Et Matthieu, le récit dit, il se leva aussitôt et il le suivit. Le regard de Jésus qui a complètement changé la vie de Matthieu. Un autre événement raconté dans la Bible, les évangiles, Zachée. On connaît tous l'histoire de Zachée. Zachée qui voulait voir Jésus, c'est comme ça que c'est raconté. Il voulait voir Jésus. Et pour être sûr de le voir, il grimpe dans un arbre. Et Jésus passe. Jésus lève les yeux et regarde Zachée. Les deux se regardent. Et qu'est-ce qui se passe ? Zachée invite Jésus à venir chez lui, dans sa maison. Pas uniquement dans sa maison, parce que Jésus va venir aussi dans son cœur. Le regard de Jésus qui vient changer complètement la vie de Jésus. Un autre récit, Pierre. Pierre l'apôtre. Et là, on est au moment de la Passion. Pierre qui avait renié Jésus 3 fois et qui devait être bien triste dans son cœur. Voilà qu'il était là et qu'il regardait ce qui se passait et Jésus passe devant lui. Et Jésus le regarde. Et Pierre se laisse regarder par Jésus. Et Pierre s'en va. Et il pleure parce qu'il est triste de ce qu'il a fait. Mais en même temps, il pleure de joie parce qu'il y a quelque chose qui change, qui se transforme dans son cœur. Et on sait ce que deviendra Pierre. On se réfère encore à lui dans l'Église du Seigneur 2000 ans plus tard. Le regard de Jésus. On pourrait donner beaucoup d'autres passages des évangiles qui parle du regard de Jésus. C'est une invitation à nous laisser regarder par Jésus. Laisser Jésus nous regarder. On va faire tantôt un moment d'adoration. Il me semble que l'adoration, ce n'est pas autre chose que ça. Nous mettre en présence de Jésus et le laisser nous regarder. Laisser son regard pénétrer en nous et avec notre cœur le regarder. Regarder Jésus. Regarder Jésus aussi dans l'écoute de sa parole. Nous sommes de ceux et celles qui entendent la parole de Jésus très souvent. Très souvent. C'est une grâce extraordinaire qui nous est faite dans notre vie d'être des écouteurs de la parole de Jésus. Quand on écoute la parole de Jésus, il faut, avec tout son cœur, le regarder et surtout le laisser nous regarder. C'est pas tant ce qu'on va dire quand on fait de l'adoration que de ce que Jésus peut nous dire. Il va se passer quelque chose qui se ressemble à ce qui s'est passé avec Matthieu, avec Zachée, avec Pierre. Et je reviens à cet acteur là qui parlait à la télévision dont je vous disais quelques mots tout tantôt. C'est un homme qui justement se laissait regarder par Jésus sans savoir. Et laissait sa parole le pénétrer. Et il avait saisi cet homme-là qu'au cœur de la parole de Jésus, il y a le sermon sur la montagne, qu'on retrouve dans l'évangile de Saint Matthieu. Et au début de ce sermon sur la montagne, il y a les béatitudes. C'est ce sur quoi vous réfléchissez au cours de cette année, hein, reprenant les béatitudes l'une après l'autre. Laissez Jésus nous regarder. Heureux les affligés, car ils seront consolés. On m'a demandé de parler de cette béatitude-là. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Dans la nouvelle traduction, parce qu'on vient d'avoir une nouvelle traduction de la Bible et donc des évangiles, dans la nouvelle traduction, au lieu de dire « heureux les évangiles, les affligés », on dit « heureux ceux qui pleurent ». Affligés, ceux qui pleurent. Je trouve ça intéressant le changement. Paraît-il que c'est plus proche du texte original. C'est intéressant parce que il me semble que le mot « ceux qui pleurent », c'est plus fort que le mot « ceux qui sont affligés ». C'est plus fort. Et ça nous dit quelque chose de fort. Heureux, vous qui pleurez. C'est ça que le Seigneur semble avoir dit. Et car vous serez consolés, il nous invite donc à pleurer avec ceux qui pleurent. Les béatitudes nous disent ce que Jésus a été, nous disent ce qu'il a vécu. Et tout particulièrement, celle sur laquelle nous réfléchissons aujourd'hui. Et là encore, si on veut voir dans les évangiles, on y trouve des bouts de récits fort intéressants. Vous rappelez facilement dans votre mémoire Jésus qui s'en va sur la route, une dame, la veuve de Naïm, qui pleure son fils qui vient de mourir et qu'elle va conduire au cimetière. Elle pleure. Et il est dit dans les évangiles que Jésus s'approche d'elle et il devient tout ému lui-même, touché par les pleurs de cette femme. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit « ne pleure plus ». Et il lui redonne son fils. Jésus qui vient consoler cette femme-là, qui vivait une tristesse profonde, une tristesse qui la faisait pleurer, et Jésus qui, dans son cœur, pleure avec elle. Il y a un autre récit aussi fort intéressant. Jésus marchait tout le temps, hein, pas son temps marchait pourtant, toutes les trois années de sa vie publique. Jésus qui descend du mont des Oliviers, et qui, tout d'un coup, il est avec ses disciples, ses apôtres, s'arrête à mi-chemin. Du lieu où ils étaient, on voit toute la ville de Jérusalem en bas. Et le récit dit ceci, lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle. Jésus pleura sur la ville de Jérusalem. Il vivait sa grande déception, parce qu'il s'en allait vers la mort, vers la passion et la mort. Il vivait sa grande déception de ne pas avoir réussi à changer la population de cette ville. Il avait rejoint un petit nombre de gens sur l'importance de la population de la ville de Jérusalem. Il pleura sur elle. Jésus qui pleure parce que, d'une certaine manière, ce qu'il a fait se révèle un échec, d'une certaine manière. Au jardin des Oliviers, Jésus est avec ses trois apôtres les plus proches, Pierre, Jacques et Jean, et il les amène avec lui. Et le récit nous dit qu'il s'éloigne. Son âme, c'est l'Évangile qui dit ça, l'âme, son âme, Jésus, son âme était triste à en mourir. La tristesse de Jésus. Jésus qui avait besoin d'être consolé. Jésus qui était affligé profondément face à ce qui lui arrivait, et on n'a qu'à penser qu'il entrait dans la passion. Et il fait une prière. Il pleure, il est triste, il est brisé. Et il fait une prière. Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Sa sueur devint comme des gouttes de sang. La tristesse de Jésus, elle n'était pas rien. Mais, il continue en disant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Dieu, son Père, répondra à sa prière en lui permettant, en l'accompagnant pour qu'il demeure fidèle à sa mission jusqu'à sa mort sur la croix. Jésus, je trouve ça bon de se rappeler ça, que quand on parle des affligés, quand on parle de ceux qui pleurent, c'est une réalité humaine de la vie de toute personne que Jésus a connue. Et il l'a connue dans un cadre de vie, dans un moment de vie, dans un cadre de vie qui est quand même très parlant. S'il y a quelqu'un qui, en un sens, a été malheureux, c'est bien Jésus quand on pense à toutes les difficultés qu'il a connues au cours de sa vie publique, quand on pense à sa passion et à sa mort sur la croix. Mais on sait que tout cela l'a conduit à la résurrection. La consolation, ça a été de ressusciter et d'aller rejoindre son Père. André Chouraki, c'est un ancien promaire de Jérusalem, c'est un monsieur très, très savant, un musulman. Il connaît très bien et l'arabe, et l'hébreu, et le latin, et le grec, et le français, un grand savant. Il a traduit toute la Bible en se référant à toutes les connaissances qu'il avait, et en particulier à l'hébreu et au grec. Et lui, il dit, au lieu de dire « heureux », les affligés, car ils seront consolés. Il dit « en marche ». Au lieu de dire « heureux les pauvres », il dit « en marche ».« Heureux les malades, en marche ». Il traduit le mot « heureux » par « en marche ». D'après lui, c'est le vrai sens du mot hébreu, là, quand on dit l'équivalent de « heureux » en hébreu, on dit « en marche ». Parce qu'il dit « ils seront consolés », ça veut dire « il y a quelqu'un » qui va vous aider à marcher. Il y a quelqu'un qui est là, qui va vous aider à poursuivre la route, à continuer. Car ils seront consolés. Un consolateur, quelqu'un qui console, c'est quelqu'un qui aide un affligé à poursuivre la route de sa vie. Donc, ne pas se laisser briser par son malheur, par sa tristesse, par tout ce qui l'afflige, mais malgré ça, de marcher. Père me donnait un exemple de ça aujourd'hui, avec dans l'époque moderne, on avance, on a inventé toutes sortes de voitures pour permettre à ceux qui ont de la difficulté à marcher, de marcher. C'est ça que être consolé au plan du cœur, et le grand consolateur, c'est Jésus. Si on peut arrêter un moment, pour chanter quelque chose. Les béatitudes nous parlent de Jésus. Les béatitudes nous disent ce qu'a été la vie de Jésus. Et on n'a qu'à penser à certains moments de sa vie. Il a même eu à certains moments, il y a quelques jours, on lisait dans l'Évangile que Jésus a eu un regard de colère à l'égard des gens qui semblaient se désintéresser justement des pauvres, des malades, des infirmes. Ils auraient voulu empêcher Jésus de faire ses miracles. Il les regarde avec un regard de colère. Parce qu'on s'attaquait à lui, mais parce qu'on s'attaquait à ceux qui vivent ce que nous disent les béatitudes. Si les béatitudes nous parlent de Jésus, elles doivent aussi nous parler de ses disciples. Si on voit Jésus qui vit les béatitudes, on doit aussi voir ses disciples vivre les béatitudes. Vivre les béatitudes parce que ça ne se manifeste que dans la vie, que dans notre vie quotidienne. Être pauvre, être doux, être pacifique, pleurer, être consolateur des autres, tout ça, ça se passe dans notre vie concrète, dans notre vie de chaque jour. Et c'est dans notre vie de chaque jour que se vivent à la fois l'affliction, la souffrance, sous quelque forme que ce soit, et la joie. On trouve ça dans notre vie, nécessairement. Certains pleurent plus que d'autres, certains sont plus affligés plus que d'autres, mais tout le monde connaît de la peine, de la tristesse, de la souffrance, tout le monde. Il y a des gens, à un moment donné, qui nous quittent. La mort nous sépare de gens que nous aimons. Et on vit quelque chose de fort triste. On voit à l'hôpital, on rencontre des gens malades. Hier encore, j'ai accompagné un confrère qui est mort là, à l'hôpital. Des réalités qui nous attristent. On voit à la télévision depuis un bon bout de temps des gens qui souffrent. Il y a la guerre, hein, particulièrement au Moyen-Orient, mais aussi en Afrique, mais aussi dans plusieurs coins du monde. Je ne sais pas si ça vous fait ça, vous autres, mais moi, quand je regarde une émission où on nous montre des gens qui sont en train de mourir à cause de la guerre, des corps étendus un peu partout, des gens qui souffrent, des gens qui s'en vont, des gens qui fuient, des gens qui marchent, des gens qui pleurent, des gens qui ont faim. Dans notre monde, il y en a beaucoup. Moi, ça me dérange. Ça me dérange beaucoup. Donc, il y a notre souffrance, il y a notre tristesse, il y a la souffrance des autres. Et on a besoin d'être consolé. Et nous avons cette chance de connaître Jésus, d'accueillir son regard, de nous laisser regarder par lui et de le voir nous donner le courage de passer à travers nos problèmes, nos difficultés, nos afflictions. Le regard de Jésus et le regard des autres aussi. C'est important, le regard des autres. Là aussi, c'est un regard qui peut nous encourager, nous aider et nous aider à supporter ce que la vie nous présente de difficile. Mais aussi dans notre vie, il y a nécessairement des moments de joie. Quand vous êtes entrés dans cette salle-là, quand nous sommes entrés, il y avait de la joie dans chez nous, hein, de nous revoir les uns les autres, de nous rencontrer. C'est notre vie de disciple, qui tout ça doit être relié à Jésus, et c'est ce à quoi les béatitudes nous invitent. Les béatitudes font que se réalise dans notre vie à nous, chacun, chacune, le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Si je viens de donner des exemples où la souffrance est présente, l'affliction est présente, les larmes peuvent être présentes, mais en même temps, parce que nous connaissons Jésus, il me semble qu'il y a dans notre vie de nombreux moments de joie et de joie profonde, de joie qui rejoint notre cœur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. On insiste beaucoup sur le mot affligé, heureux ceux qui pleurent. Il y a l'autre mot qui est important, car ils seront consolés. Il y a des consolateurs présents sur la route de notre vie. Jésus lui-même a eu besoin d'être consolé. À un moment donné, je vous rappelle un récit évangélique, à un moment donné, il y avait beaucoup de gens autour de Jésus. Et ces gens-là se sont mis à partir, à s'en aller. Puis Jésus s'est retrouvé tout seul, avec ses apôtres, un petit groupe de disciples. Et c'est l'évangile de Saint Jean qui nous raconte ça. Et c'est écrit, ceci est écrit. À partir de ce moment, les gens qui s'en vont, les gens qui s'éloignent, à partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, ceux qui sont proches de lui là, voulez-vous partir vous aussi? Des mots importants. Jésus qui craint que ses apôtres l'abandonnent et qu'il se retrouve tout seul. Et Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Vous ne pensez pas que cette attitude de ces apôtres, ces mots de Saint-Pierre, vous ne pensez pas que ça n'a pas été des mots d'encouragement pour Jésus, pour la poursuite de sa mission. Il avait besoin, Jésus, d'être consolé. Peut-être qu'aujourd'hui, Jésus aurait besoin qu'on le console. Il y a quand même beaucoup de gens qui le quittent, qui s'éloignent de lui. Nous restons là, proches. Il semble qu'on peut se dire que notre proximité avec lui fait qu'il doit être heureux de voir que nous sommes là. Nous sommes de ceux qui disent à Jésus, « Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Saint de Dieu. Nous ne te quitterons pas. » Nous sommes des consolateurs de Jésus. D'autres exemples, je reviens au récit de la Passion. Jésus qui se retrouve avec Pierre, Jacques et Jean. Pourquoi les a-t-il amenés avec lui alors qu'il s'en va prier, qui sait ce qui va se passer au jardin des Oliviers? Il les amène avec lui parce qu'il a besoin qu'il y ait quelqu'un avec lui. Quand on vit quelque chose de difficile, dur, c'est bon d'avoir quelqu'un qui est là. Jésus amène ses trois amis avec lui parce qu'il a besoin d'être encouragé, d'être supporté. Puis là, il leur dit, ben, restez ici un moment, moi je vais aller prier tout seul. C'est ce qu'il fait. Il revient vers ses apôtres, vers Pierre, Jacques et Jean. Sûrement qu'il pensait qu'il pourrait parler avec eux. Peut-être qu'il avait besoin qu'on parle avec lui. Il les trouve endormis tous les trois. Jésus qui avait besoin sûrement de consolateur, et puis voilà que ceux qu'il avait amenés pour ça lui font défaut. La tristesse de Jésus. Jésus qui a besoin de consolateur. C'est nous autres aussi, nous avons besoin d'être consolés très souvent. Et quand on dit la béatitude, il faut la prendre en entier. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il me semble que cette béatitude, elle fait appel à des consolateurs. Des affligés, il y en a, il y en aura encore, il y en a toujours. Il n'y a pas toujours des consolateurs proches d'eux, proches d'elles. Et il me semble quand on dit cette parabole-là, pas cette parabole, mais cette béatitude-là, nous qui sommes ici rassemblés à cause de lui, on va faire de l'adoration, on va célébrer l'Eucharistie, on est là à cause de Jésus. Il faut l'entendre nous inviter à être des consolateurs. Et notre monde a besoin, beaucoup, beaucoup de consolateurs. Et je le disais il y a un moment, quand on regarde ce qui se passe dans notre monde, quand on regarde ce qui se passe dans nos milieux, quand on lit les journaux, on regarde la télévision, il me semble qu'on est dans un monde qui a besoin que des gens se lèvent pour y apporter ce qui peut changer la vie des gens et les rendre plus heureux, les rendre moins malheureux. Ça a été ce que Jésus a fait, je rappelle, Jésus qui rencontre la veuve de Naïm sur la route. Qu'est-ce qu'il fait? Il se laisse toucher, il se laisse émouvoir, mais il lui redonne son fils. Il la console. Si on lit les récits de miracles, Jésus en consolait toujours, consolait les gens qui avaient besoin, qui demandaient d'être guéris, de marcher, de voir, d'entendre. Mais en même temps, il donnait espérance à tous ceux qui étaient là, qui le voyaient faire ces miracles. Pas pour rien que les gens couraient après lui, que les gens se rassemblaient à cause de lui. C'est parce qu'il trouvait dans son regard, dans ses paroles, dans ses gestes, de la consolation. Et Jésus, le regard de Jésus sur Pierre, la parole du bon larron, qui avait une vie pas très très exemplaire, qui là, il va mourir sur la croix, tout comme Jésus, et qui se tourne vers Jésus et qui lui dit « Toi, tu ne mérites pas ça, nous, on mérite ça. » Puis Jésus qui lui dit « Tu m'accueilleras dans ton paradis. » Jésus lui dit « Oui. » Jésus qui a pensé à consoler quelqu'un jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et au pied de la croix, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde pour consoler Jésus jusqu'à la fin. Il n'y a pas le bon larron qui lui a parlé. Il y avait quelques femmes et l'apôtre Jean qui étaient là. Les autres étaient loin, éloignés pour ne pas qu'on les prenne comme des compagnons de Jésus. Et c'est là que Jésus a pris un peu de consolation alors qu'il vivait quelque chose de tellement difficile. Et je voudrais aussi souligner, je terminerai peut-être par là, souligner Marie. Marie qui a eu la vie beaucoup plus difficile qu'on l'imagine. Ça n'a pas été facile, la vie de Jésus. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, qu'on célébrait dans ma paroisse les 7 douleurs de Notre-Dame. Notre-Dame des 7 douleurs. Puis après ça, on faisait les 7 allégresses. Les 7 allégresses de Marie. Marie a connu beaucoup, beaucoup de joie à vivre avec Jésus, dans la proximité de Jésus, et particulièrement à Nazareth. Sûrement que ça l'a rempli de joie. Mais elle a connu aussi des moments très, très difficiles. Elle n'a qu'à penser à la Passion. Et à un moment, peut-être tantôt, un moment important qui nous parle de Marie, me semble-t-il. J'ai lu un petit livre du cardinal Martini qui s'appelle « Marie et le samedi saint ». Et à partir de ce petit livre-là, à la résidence des prêtres malades, cardinal Vachon, j'avais préparé une petite célébration, une petite liturgie de la parole pour le samedi saint. Parce que eux, le samedi saint, ces prêtres-là, ne pouvaient pas aller à l'office. Donc il y avait un grand vide, là, le samedi saint. Du vendredi 3h jusqu'au dimanche matin, pour eux, il n'y avait pas de liturgie pour les prêtres. Puis alors j'avais fait une célébration de la parole sur ce que Marie a dû vivre, parce qu'il faut marcher un peu son imagination, mais c'est facile. Ce que Marie a dû vivre le jour du samedi saint. Comment elle a dû être triste ce jour-là. Entre le moment où elle a vu Jésus déposé dans le tombeau, puis le moment de la résurrection, il s'est passé des heures. Jésus avait fait un geste qui est un geste consolateur. Il avait dit à Jean, ce sera ta mère. Donc, Jésus avait pensé à faire en sorte que quelqu'un s'occupe de Marie après que lui ne sera plus là. Et, mais là, même si Saint Jean était là, il y a certainement eu des moments dans cette journée où Marie était toute seule. Il n'y avait personne avec elle. Et on peut imaginer sa grande tristesse. Mais en même temps, on peut penser que Marie se souvenait de ce qu'elle avait dit. Sa fidélité, elle l'avait engagée, elle l'avait promise, et elle est restée fidèle. Alors elle a vécu un moment triste, mais un moment qui n'empêchait pas le Seigneur de vivre en elle, à cause de sa foi, qui un moment dur qui n'éteignait pas sa confiance en Dieu, son Père. Un moment pénible qui ne l'empêchait pas de laisser l'Esprit habiter son cœur. Et ce moment triste, ce moment de foi profonde, il a eu sa réponse au matin de Pâques. La joie de Marie au matin de Pâques. La grande consolation, la consolation par excellence, la consolation qui nous est dite et qui nous est assurée parce que nous sommes habités par la même foi. Nous a été faite la même promesse, celle de connaître la plénitude de la joie, la réalisation en plénitude de toutes les béatitudes avec le Seigneur quand nous irons le rejoindre. Il me semble que il y a toujours, pour quelqu'un qui est croyant, croyante, il y a toujours capacité de trouver dans son cœur la consolation dont on a besoin quand ça va mal, l'encouragement dont on a besoin, mais en même temps que cela nous dise aussi que les autres sont dans la même situation et que nous avons besoin. Si nous avons besoin d'être consolés, les autres ont besoin d'être consolés. Il me semble que pour nous qui sommes ici ce matin, c'est peut-être ce qu'il faut entendre dans cette béatitude. Car ils seront consolés. Être des consolateurs, des consolatrices. Ils sont tellement nombreux les gens aujourd'hui qui ont besoin d'espérance pour toutes sortes de raisons. Il y a tellement de gens qui ont besoin d'être soutenus, d'être aidés. Et c'est une réalité très présente dans notre monde aussi, la présence de consolateurs. Quand on voit cette maison-ci, dans cette maison-ci, il y a plein de consolateurs et de consolatrices. Il y a plein de gens qui ont souci de ceux qui viennent ici parce qu'ils ont besoin justement d'être aidés et d'être consolé. Il y a plein de gens malheureux autour de nous qui ont besoin d'être consolés. Puis il y a des consolateurs, il y a des consolatrices. Il y a tout plein d'organismes, on en fait partie, dont la mission, ça finit par être celle-là, d'aider les gens, les encourager, faire qu'ils continuent à vivre et à vivre dans la joie, dans l'espérance. Il y a plein d'organismes internationaux qui font mourir les gens, mais il y a plein d'organismes internationaux qui vont aider ces gens-là. Moi, je suis toujours touché par les médecins, là, Médecins sans frontières, de voir des docteurs qui partent et qui vont soigner les gens en plein milieu de la guerre. Et puis, c'est monsieur... Un journaliste qui a dit qu'il y a plein de Québécois dans le monde, un journaliste, je cherche son nom, mais peu importe, qui voyage beaucoup parce qu'il est journaliste au plan international, et il disait qu'il rencontre partout les jeunes Québécois présents dans des organismes des Nations Unies, des organismes qui partent d'ici, il y en a plein partout. C'est un peu nos nouveaux missionnaires. Peut-être qu'ils ne savent pas là, tout ce que j'ai dit ce matin. Peut-être qu'ils ne savent pas qu'ils sont proches de l'Évangile. ne savent pas comme connaissance, mais ils le sont dans la pratique. Ils le sont de fait. Heureux les affligés, parce que le Seigneur un jour va leur faire connaître la joie pleine. Heureux les affligés aussi, parce que nous sommes là pour les consoler. Je vous remercie. Peut-être que nous pourrions demander au Seigneur cette grâce de rencontrer des consolateurs quand notre vie va moins bien, quand elle demande de l'encouragement, rencontrer des consolateurs. Demander aussi cette grâce de pouvoir être nous-mêmes des consolateurs, des consolatrices.